et j'ai différé du studio où on enregistre.
C'est Humour Plus, l'émission du rire et de la bonne humeur, chaque samedi 16h-18h sur Radio Plus.
Histoire d'un mec. Vous la connaissez, non?
Vous voulez porter plainte? Parce qu'il n'est pas marqué sur notice pour mettre le char dans le micro-ondes. Mais c'est une question de bon sens, madame. Bah non, vous avez déjà mis une machine à laver dans le cul? Bah voilà, il n'était pas marqué sur notice pourtant, madame.
Première partie, je vous expliquer rapidement ce que c'est. En gros, quand vous arrivez dans un grand restaurant et que vous commandez un plat, pour vous faire patienter, on vous rapporte un petit pot de cacahuètes un peu dégueu. C'est moi, d'accord? Un amuse-gueule, hein. Moi je m'amuse, vous faites la gueule, c'est le principe.
Un concassé de tomates, c'est fin, c'est délicat, c'est beaucoup plus raffiné.
Ouh, il va arrêter de nous concasser les couilles, lui.
Ta gueule, maman. That is all.
Hello tout le monde, j'espère que tout le monde va bien ce samedi 2 novembre, c'est un nouveau numéro d'Humour Plus que je vous propose. On est ensemble bien sûr pendant 2 heures avec un invité qui a eu la gentillesse de venir dans un emploi du temps extrêmement chargé. Pour rien vous cacher, on a enregistré cette émission ce matin et c'est un petit peu la course pour mon invité. On l'a déjà reçu dans cette émission, c'était déjà la course la dernière fois qu'il est venu. Il s'arrête jamais, faut dire qu'il travaille tout le temps, c'est un bosseur, c'est un acharné, on est ravis de l'accueillir. Il représente aussi la jeune scène humoristique lilloise. C'est Maé que l'on accueille. Salut Maé, comment ça va?
Salut, ça va très bien, et toi Julien?
Eh ben ça va très bien, ça va bien. Merci d'être venu parce que, je viens de le dire, c'est vrai qu'il y a un emploi du temps qui est très très chargé pour toi aujourd'hui. On enregistre ce matin parce que tu as un planning de fou cet après-midi. Je sais pas comment tu vas faire. Est-ce que tu veux me raconter un petit peu ce qui nous attend cet après-midi?
Bon bah alors déjà, tout d'abord, après l'enregistrement, je vais faire mon filage avec mon metteur en scène pendant 2 heures. À 16h, j'ai un plateau pour tester tout ce qu'on a droit à travailler. À 18h, j'ai rendez-vous pour les balances parce que je fais la première partie d'Ahmed Silla au Colisée à Roubaix. À 20h, je fais la première partie, donc j'ai le droit à 15 minutes sur scène. Et à 21h30, je joue mon spectacle entier au Spotlight à 21h30. Et à 23h30, je termine la soirée sur un autre plateau dans un autre comédie club.
T'as pas prévu de faire les trajets en métro parce que c'est un petit peu capricieux le métro à Lille en ce moment?
Non, non, surtout pas, parce que là, je vais rester bloqué, c'est sûr.
En tout cas, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est un petit peu particulier puisque malheureusement, je suis tout seul. Oui, c'est vrai que c'était un petit peu compliqué d'avoir toute l'équipe un samedi matin. Je suis content en même temps d'être là parce que aujourd'hui, c'est un jour un petit peu particulier pour moi. Ça fait 7 ans que j'ai fait mon entrée dans cette émission Humour Plus. Ça veut dire que l'émission, elle a 8 ans aujourd'hui. Donc, ça se fête.
Et un grand bravo à toi, Julien.
Merci, merci. Mais parce que nous, ça fait 8 ans, voilà, qu'on accueille des humoristes comme toi, qu'on voit grandir, qu'on accompagne, et c'est vrai que t'as bien grandi. On va en parler tout au long de cette émission, parce que voilà, la première partie d'Ahmed Silla, c'est une cerise sur un gâteau de la journée d'aujourd'hui, mais c'est pas la seule que tu vas avoir dans les prochains mois, dans les prochaines années, parce que il y a un bel avenir qui t'est prédit. Alors on sait que ces carrières, hein, bien sûr, sont un petit peu aléatoires, malheureusement, mais on sait que de ton côté, toi, tu bosses, et on est ravis en tout cas de t'accompagner. Alors durant ces 2 heures, comme d'habitude, vous allez retrouver Maé en interview. Dans quelques instants, l'interview cash. Il y aura également un petit peu de musique pour se distraire. Et puis côté rubrique aujourd'hui, simplement, je dis simplement, mais c'est déjà pas mal, le flash backstage pour tout savoir des spectacles à venir, de l'agenda des spectacles. Et on va démarrer avec une rubrique que t'as déjà découverte, mais ça sera aussi l'occasion pour ceux qui ne te connaissent pas de faire connaissance avec toi. C'est l'interview cash. Je vais te poser 20 petites questions comme ça qui vont te permettre de t'échauffer aussi, de faire connaissance avec toi et avec le public aussi qui va pouvoir te découvrir à l'écoute de cette émission. Voilà, j'attends de toi des réponses évidemment spontanées. Je m'inquiète pas, toi qui viens du milieu du stand-up, et puis on les développera si nécessaire au fur et à mesure de l'émission. On va commencer, Maé, avec ta date et ton lieu de naissance.
Alors, je suis né le 18 mars 1991 à Valenciennes.
Comment est-ce que tu te définis sur le plan artistique? Quel est ton style?
Alors mon style, je pratique l'humour populaire, non pas dans le sens péjoratif, mais dans le sens où mon spectacle peut rassembler le maximum de personnes en fait.
Ce qui t'a donné le déclic pour faire de la scène?
Le théâtre. J'ai commencé les cours de théâtre et mon prof m'a rapidement orienté vers le stand-up et l'humour.
La date ou l'année, si tu te souviens pas de la date exacte, de ta toute première scène en tant qu'humoriste?
Ma toute première scène, c'était le 14 avril 2015 au Spotlight.
Quel est ton meilleur et ton pire souvenir de scène?
Mon pire souvenir, j'ai joué dans un restaurant Et en fait, les gens mangeaient et personne ne m'écoutait. Mais quand je vous dis personne, c'est vraiment personne. Le serveur passait devant moi avec les plats, il prenait les commandes, etc. Et vraiment, c'était très, 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 très gênant. Et c'est mon pire souvenir de scène. Et mon meilleur souvenir, la semaine dernière. La semaine dernière, j'ai joué à Lyon dans le cadre d'un festival, Villeurbanne. Et à la fin de mon passage, j'ai joué 15 minutes. Et à la fin de mon passage, j'étais dans une salle de 600 personnes. Et toute la salle s'est levée et m'a applaudi. J'ai une standing. Et c'est la première fois que je voyais autant de personnes et que je jouais devant autant de monde et qui se lèvent à la fin de mon passage. C'était...
Et sur un plateau en plus, c'est-à-dire que je... pas sur le spectacle entier où on peut juger de l'ensemble de la qualité de ton travail.
Voilà, voilà.
Et c'est ça aussi qui est classe.
Et il y avait 13 humoristes de toute la France.
Mmh.
Et en fait, moi, je suis passé dans l'ordre de passage. J'étais, si je dis pas de bêtises, j'étais 10e. Et avoir une standing comme ça en plein milieu du show, tu vois, si c'était à la fin ou autre, j'aurais pu comprendre. Mais là, vraiment, ça m'a fait super plaisir. Et voilà, c'est mon meilleur souvenir là pour le moment.
Mais ça fait chaud au cœur. On l'imagine bien. Ce qui te plaît dans ton métier d'humoriste?
J'ai pas de routine. Je rencontre énormément de personnes. Je rencontre énormément de public. Et vraiment, je prends du plaisir chaque jour à découvrir toutes ces personnes de milieux différents. Même dans le cadre du travail, par exemple aujourd'hui à la radio, je viens, je rencontre des personnes. Je vais dans des salles différentes à chaque fois. Je rencontre des personnes différentes, des régisseurs, des programmateurs, des managers. Vraiment, c'est très enrichissant.
Ça nourrit aussi quand on est comme toi auteur pour des sketchs. Ça nourrit toutes ces rencontres.
Bien sûr, bien sûr.
Il va y avoir une vanne sur Radio Plus dans le prochain. je vais pas le voir venir.
On va faire Julien là, on va le caricaturer.
Ton premier sketch, ça parlait de quoi?
Mon premier sketch, le thème c'était mon prénom en fait, parce que je m'appelle Maïdine et mon prénom il y a 10 lettres. Et j'expliquais la complexité en fait, la difficulté que j'ai eu à apprendre à écrire mon prénom. Contrairement aux d'autres enfants qui avaient des prénoms normaux entre guillemets comme Lucas, Alex, voilà, c'était des prénoms très simples à écrire. Mais moi, Maïdine, j'ai mis pas mal de temps à l'écrire sans faute.
Et tu dis normaux, mais il y a des parents qui mettent des orthographes assez chelous, hein, même dans les prénoms qu'on va dire normaux, pour reprendre ton propos. des Alex avec deux X, j'ai déjà vu, tu vois.
C'est ça.
La salle où tu rêverais de jouer?
Comme tous les humoristes, je pense l'Olympia. Hein.
Le type de vanne que tu t'interdirais de faire sur scène, celle qui te dit ouais voilà non là j'ai dépassé les limites, c'est pas moi.
En fait je pense pas qu'on ait de limites, dans le sens où vraiment pour moi la scène c'est un espace de liberté, un lieu d'expression où je peux me permettre de dire ce que je veux, mais tout dépend de comment on va le tourner. Et franchement, je pense pas qu'on puisse avoir de limites sur scène. À partir du moment où les choses sont bienveillantes et on sent bien que c'est de l'humour et qu'on n'est pas là pour blesser les gens ou quoi que ce soit.
Le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui veut faire de la scène?
Enchaîner les scènes, mais vraiment tous les jours, travailler à fond, parce qu'en fait c'est en montant sur scène et en travaillant que les choses se débloquent en fait.
Le sketch connu auquel tu t'identifies, celui qui te fait dire voilà, ce sketch-là de cet humoriste-là, c'est mon univers?
Franchement, j'ai en tête, j'ai pas l'exemple, mais Alban Ivanov, quand il fait la conseillère d'orientation.
Ouais, très bon choix, voilà. Aussi. Alban Ivanov, c'est un grand aussi, et ouais. qui a une bonne présence sur scène. D'ailleurs, si vous connaissez pas Alban Ivanov sur scène, je vous invite à vous renseigner. Quel est ton modèle?
Artistique.
Ouais, ou modèle dans la vie, à la limite, pourquoi pas. C'est vrai qu'on laisse la question ouverte.
Mon modèle, franchement, c'est pas dans le domaine de l'humour, c'est plutôt un sportif, ça serait Mohamed Ali.
Mm-hmm.
Vraiment par rapport à sa philosophie, par rapport à sa combativité, le fait de se créer dans l'adversité, de grandir sans écraser les autres, mais plutôt en élevant les autres. Moi, c'est ça mon exemple.
L'humoriste que tu ne peux pas voir en peinture, celui qui te fait zapper quand tu le vois à la télé ou quand tu l'entends à la radio? Ah, c'est le moment où il faut balancer.
Je te jure, franchement, aucun. Parce qu'en fait, malgré que les goûts et les couleurs varient selon les personnes.
Bien sûr.
Honnêtement, en termes d'humour, moi, je suis très bon public et j'aime bien voir de tous les styles. Donc, même si c'est pas mon domaine ou si c'est pas mon registre, j'aime beaucoup regarder les autres humoristes.
Alors, l'humoriste auquel tu n'aimerais pas être comparé, si on te disait par exemple, Maé, ce qu'il fait sur scène, ça ressemble à... Qu'est-ce qui te ferait un petit peu râler?
Je dirais Bigard par exemple, parce que voilà, alors que j'aime beaucoup ce qu'il fait, hein, mais je suis pas dans ce registre-là, pas du tout. J'aimerais pas qu'on me compare, quoi. Ouais.
Tiens, toi qui en fais beaucoup en ce moment et qui en fais même de plus en plus, si demain tu dois arrêter la scène, qu'est-ce que tu deviens?
Franchement, très bonne question, parce que je me vois pas faire autre chose. Mais pas du tout. Donc, franchement, j'y ai pas réfléchi et j'espère ne pas avoir à y réfléchir. Mais voilà, je me pose pas la question.
Quel est ton film comique préféré?
La Tour Montparnasse Infernale avec Eric Ramsey.
Le truc un peu honteux, mais que tu aimes bien quand même regarder à la télé?
Les anges de la télé-réalité.
Est-ce que tu es fêtard ou casanier?
Casanier.
Le morceau de musique que tu peux écouter en boucle sans jamais te lasser?
Maroon 5, Memories.
Et enfin, le petit truc qui t'énerve au quotidien?
Prendre ma douche, mettre mes chaussettes et marcher dans l'eau juste après, avant de mettre mes baskets.
Ça c'est la routine de beaucoup de gens le matin, de faire cette erreur là.
C'est le truc qui peut... qui gâche ma journée.
En tout cas, la journée elle s'annonce belle pour Maë aujourd'hui, qui est notre invité exceptionnel dans un emploi du temps exceptionnel. Vous l'avez entendu en début d'émission, il va être partout cet après-midi dans la métropole lilloise, plein de scènes qui l'attendent. On va le découvrir ensemble tout au long de cette émission. Mais là on va souffler un petit peu avec une petite pause musicale. Et tiens, j'ai essayé de te faire plaisir. Maroon 5, Memories sur Radio Plus.
Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. There's a time that I remember when I did not know no pain. When I believed in forever and everything would stay the same. Now my heart feels like December when somebody say your name. Cause I can't reach out to call you, but I know I will one day, hey. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, hey, hey. But everything gon' be alright, gon' raise a glass and say hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your. Memories, bring back your. There's a time that I remember when I never felt so lost. And I felt all of the hatred was too powerful to stop. Oh, yeah. Now my heart feels like an ember and it's lighting up the dark. I'll carry these torches for you, and you know I'll never drop. Yeah. Everybody hurts sometimes, everybody hurts someday, yeah, yeah. But everything gon' be alright. Gonna raise a glass and say, hey. Here's to the ones that we got. Cheers to the wish you were here, but you're not. Cause the drinks bring back all the memories of everything we've been through. Toast to the ones here today. Toast to the ones that we lost on the way. Cause the drinks bring back all the memories. And the memories, bring back your.
Et c'était Maroon 5 à l'instant sur Radio Plus dans votre émission Humour Plus avec Memories.
Salut, c'est Jérémy Charbonnel. Alors tu aimes l'humour, tu aimes les jeux de mots, mais faut pas hésiter. Tu retrouves Julien en direct de Radio Plus dans Humour Plus tous les samedis de 16h à 18h ou sur www.radioplus.fr.
Et l'excellent Jérémy Charbonnel qui était sur la scène du Spotlight de Lille il y a 15 jours de ça, c'était le week-end du 18 et du 19 octobre et qu'on a eu un grand plaisir à recevoir. Il va passer forcément près de chez vous dans le cadre de sa tournée et si vous voulez en savoir plus sur lui, eh bien je vous invite à réécouter le podcast de l'émission du 19 octobre dernier. On va retrouver à présent l'agenda spectacle de cette semaine, c'est le Flash Backstage. Ils sont venus, ils ont vu, ils ont rigolu, ou pas. L'équipe d'Humour Plus vous dit tout dans le Flash Backstage. Et je vous rappelle que Maé est mon invité, il sera d'ailleurs ce soir au Spotlight de Lille à 21h30. Tiens Maé, d'ailleurs, c'est pas ta seule date hein, à venir au Spotlight de Lille. On dit Maé s'installe, mais finalement t'es bien installé hein, tous les premiers samedis du mois, c'est ça?
C'est ça.
C'est juste l'horaire hein, qui peut varier selon les jours.
C'est ça.
Et c'est programmé jusque quand
Jusqu'au mois de juin.
Ah ouais, voilà. Donc même en 2020, on aura le plaisir de te retrouver tous les premiers samedis du mois. Donc 17h30, 19h30 ou 21h30, c'est ça selon les...
C'est ça, il y en a qu'un seul à 17h30, c'est le 7 décembre, après le reste ça sera 19h30 ou 21h30.
Ok, et puis tiens, pour ceux qui nous écoutent, parce que cette émission est diffusée jusque 18h, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu où est-ce qu'on te retrouve ce soir? Et puis pour les autres qui nous écoutent en rediff le mardi soir, bah, il faudra se rabattre sur les dates à venir. Quel est ton agenda là dans les jours à venir? Donc déjà aujourd'hui, pas mal de choses à compter de cet après-midi, à compter de ce soir.
C'est ça. Donc déjà cet après-midi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, donc j'ai un plateau à 16h. C'est une scène ouverte au Spotlight. À 20h, je fais la première partie d'Ametsila au Colisée à Roubaix. 21h30, mon spectacle entier, Maé s'installe au Spotlight de Lille. Et à 23h30, je serai dans un plateau, dans un nouveau comedy club qui vient d'ouvrir à Lille, qui s'appelle l'Industrie Comédie. Mmh. Et je serai présent sur le plateau.
Est-ce qu'il reste des places pour ce soir, pour Ametsila et pour toi au Spotlight?
Alors, il me semble que pour Ametsila, c'est complet. Moi, il doit rester quelques places, mais on a une très belle salle ce soir,
ouais. Ouais, et donc si vous êtes à l'écoute de cette émission, que vous cherchez un plan sorti ce soir, Maé s'installe, c'est à 21h30 au Spotlight de Lille et on vous dit tout sur ce spectacle dans un instant. Alors, du côté des autres spectacles à retrouver, je vous rappelle bien sûr que Jérémy Crédville est désormais de retour aussi, il revient régulièrement avec notamment son spectacle d'impro qui s'appelle Tournée Générale. Vous déposez un mot sur le tableau en rentrant et il élimine les mots au fur et à mesure de son impro, et s'il ne réussit pas à placer l'intégralité des mots, eh bien, il vous paye la tournée générale à toute la salle. Et il reviendra, Jérémy Crédville, avec son spectacle. Ça, c'est le 6. Non, c'est dans le cadre de Crash Text, un nouveau concept qu'il propose. 3 fois 20 minutes de nouveautés jamais testées en public avec lui-même et deux autres artistes. C'est à retrouver le 6 novembre à 19h30. Vous avez également le 6 novembre au Dancing à Lambersart, Louis Arthur avec son spectacle Lent mais sérieux. Là, vous trouvez toutes les infos sur la page Facebook de Louis Arthur. Vous tapez Louis Arthur dans votre moteur de recherche Facebook. Toujours au Spotlight de Lille, on va noter le rendez-vous avec Tchatchakar. C'est avec Aizan et JP. C'est le 9 novembre à 17h30. On les aime aussi là beaucoup. C'est une comédie autour du covoiturage notamment. Et je vous invite à vous renseigner. Ce spectacle vaut vraiment le coup. Une autre artiste qu'on aime beaucoup, elle s'appelle Florence Corto. Son nouveau spectacle s'appelle Antiseptique. Elle vous donne rendez-vous à partir du 13 novembre. Ce sera la première à 21h30 et elle jouera ensuite régulièrement à 21h30 jusqu'au 27 novembre. On va également noter un garçon qu'on aime aussi encourager, c'est Louis Bonnour. Lui, il jouera son spectacle le 16 novembre à 17h30. Son spectacle s'appelle Un bobo pas comme les autres. Vous allez retrouver toutes les infos concernant ce spectacle sur le www.spotlight-lille.com. Et puis on termine bien sûr avec un petit coup d'œil à la programmation de la boîte à rire qui vous donne rendez-vous avec le catch d'improvisation théâtrale. C'est mardi à 20h au 252 rue Gambetta, donc c'est dans la boîte à rire, c'est proposé par nos amis de Soul Rire. Il faut aller les voir et les encourager. Et puis également coup d'un soir polichinelle dans le tiroir, c'est le One Man Show de Fred Tanto à retrouver le 9 novembre à 21h. C'est une petite sélection de spectacles que que l'on vous propose, mais vous allez vous renseigner sur les différents sites, celui du Spotlight et celui de la Boîte à Rire. Et Maë voulait nous recommander quelque chose.
Et il y a également un plateau qui se tient à la Boîte à Rire tous les dimanches. Alors c'est tout nouveau, c'est tous les dimanches à 19h et c'est un plateau d'humoristes où t'as tous les humoristes en herbe qui viennent de Paris, Lyon, Nantes, un peu partout dans la France, et qui viennent faire des présentations de leur spectacle. Mmh. Ils font 10 minutes chacun de leur passage, de leur spectacle, pardon. Et c'est sympa à découvrir, je trouve que c'est un bon concept.
Ouais, effectivement, en tout cas, il faut être curieux, aller découvrir. C'est aussi bon pour les humoristes qui vont effectivement aller défendre leur spectacle, leur univers sur scène et qui ont besoin aussi des retours du public. Et puis ça permet aussi peut-être de découvrir ceux qui seront tout en haut de l'affiche demain. Voilà pour ce flash backstage, et on est encore ensemble en compagnie de Maë. Alors Maë, toi tu joues ton spectacle régulièrement, on l'a dit au Spotlight de Lille. Ce spectacle s'appelle Maë s'installe. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans?
Alors Maë s'installe, c'est on retrace le parcours de Maïdine, de ses débuts dans le milieu artistique, de sa vie personnelle jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, on retrace tout le parcours, c'est-à-dire que on parle de tous les métiers que j'ai pu exercer dans ma vie, de l'école, vraiment c'est une carte d'identité en fait. C'est autobiographique, ça retrace mon parcours.
Et est-ce qu'il est facile d'écrire sur soi, justement?
Est-ce qu'il est facile? Oui et non. Dans un sens, oui, dans le sens où on maîtrise le sujet, parce que c'est nous-mêmes, donc on a pas trop de difficultés. Mais c'est dur de voir les bons angles nous concernant. Ou alors, je vais prendre un sujet et je vais l'exposer, mais avec ma façon de voir les choses, de mon point de vue. Et là, c'est un exercice qui est assez compliqué, dans le sens où il faut il faut faire une introspection en fait sur soi-même.
Alors sans trop en dire sur le spectacle, pour que les gens aient quand même la surprise, on va quand même retracer un petit peu ton parcours, parce que il est riche ton parcours. T'as fait tous les métiers. Alors quand je dis tous les métiers, t'as fait une grande variété de métiers. T'as fait un petit peu une sorte de yo-yo. T'es allé dans des univers où alors je vais pas dire on t'attendait pas, parce que ça c'est ton parcours qui t'appartient, mais il y a eu des transitions qui sont un petit peu étranges quand même dans ta vie professionnelle, sans jugement, sans rien. Et puis le théâtre t'a rattrapé, on en parlait aussi. Alors qu'est-ce que raconte-nous un petit peu le cheminement dans ta vie. Mais c'est une psychothérapie ici en même temps,
je vais m'allonger et je vais te raconter.
Et je te demanderai 70 balles en partant.
Pas de soucis. Donc en gros, moi j'ai commencé, j'étais livreur de pizza. Et en même temps, en parallèle, je prenais des cours de théâtre à Valenciennes, dans une petite troupe qui s'appelait Souffleur d'art. Mmh. Et ça se passait très bien, franchement, je kiffais mes cours de théâtre. On avait cours 3 fois par semaine, donc c'était assez soutenu quand même, c'était pas mal. Et je prenais beaucoup de plaisir à aller prendre cours dans ces ateliers. Et ce qui me plaisait beaucoup dans le théâtre, c'est que on était tous mélangés, on venait tous d'horizons différents. Tout le monde avait des métiers dans la vie. Il y a personne qui était comédien professionnel. Et j'ai vu que le théâtre, c'était une façon de rassembler les gens en fait. Parce qu'en fait, je me suis retrouvé en contact de personnes. Sans le théâtre, on n'aurait jamais eu l'occasion de se rencontrer dans la vie. Et je me dis que le théâtre, ça a été fédérateur en fait. Ça a rassemblé plein de gens parce qu'on avait tous une même passion qui était de monter sur scène. Et ça a démarré de là. Et petit à petit, mon prof de théâtre, Bastien, à l'époque, il m'a orienté à écrire des sketchs. Parce qu'en fait, à chaque fois que j'intervenais dans le cours, tout le monde riait. Alors même si j'avais un texte dramatique, on arrivait à en tirer des choses comiques. Donc
Mais alors, du coup, parce que je me suis posé la question tout à l'heure quand on a fait le petit questionnaire cash, là, est-ce que t'es venu au sketch parce que t'étais le genre d'élève un petit peu dissipé, ou à l'inverse, est-ce que c'est une opportunité à laquelle tu t'attendais pas et où finalement tu t'es dit bon, je vais quand même me lancer dans le classique, on va dire, parce que ça me plaît?
Alors j'étais l'élève dissipé à l'école, mais c'est à aucun moment je me suis dit voilà, plus tard tu vas faire de la scène, tu vas faire rire les gens. Pas du tout. Ça arrivait beaucoup plus tard. J'avais 21 ans, 22 ans. Je prenais mes cours de théâtre. Et au bout de 1 an et demi, après avoir beaucoup joué des textes classiques, je me suis rendu compte en fait, et on m'a beaucoup orienté vers la voix comique, et c'est ce que j'ai fait tout simplement.
Ouais. Et ça t'a mené à un parcours assez assez riche. Et là aussi un parcours fait de rencontres, et notamment celle de Caroline Mansart. Et j'aimerais que tu m'en parles.
Alors Caroline Mansart, c'est une personne formidable, vraiment, avec qui j'ai collaboré, avec qui on travaille le spectacle. Alors là, on a vu que je vais passer une autre étape. En fait, parce que un metteur en scène, il faut que le metteur en scène suive le spectacle. Et étant donné que je vais beaucoup, beaucoup voyager, comme à Avignon, Caro n'a pas pu venir suivre le spectacle. Donc, je vais devoir, on va, comment dire, changer le metteur en scène, mais pas par rapport à l'affinité ou par rapport d'un point de vue artistique, mais juste sur le fait que je vais devoir avoir une personne qui me suive constamment sur toutes les dates, sur tous les plateaux.
Tu franchis une nouvelle étape, en fait.
Exactement. Et donc, il va falloir vraiment un suivi du spectacle de très près.
Ouais. Et ça, ça fait aussi partie de ton évolution. On va en parler de cette évolution, parce que t'es parti, on va dire, de rien. Oui, c'est vrai que finalement t'es parti de rien. T'as juste poussé aussi la porte au gré des conseils qu'on t'a donné. Aujourd'hui, t'as une production qui te suit. C'est Véron Productions.
Ouais.
T'as fait des dates tout l'été du côté du Festival d'Avignon, et on sait à quel point ici c'est important pour les humoristes, pour être programmé tout au long d'une année. T'as une metteur en scène qui t'a rejoint, et si je dis pas de bêtises, aujourd'hui t'es en passe de, ou tu vis peut-être même déjà de ton métier.
Alors là, je deviens intermittent au mois de novembre, là, c'est de ce mois-ci.
Donc encore une fois, une étape qui te permet de ne penser qu'à
mon métier. Voilà, c'est ça.
Et comment tu le vis, ça?
Ben, je le vis bien, dans le sens où, voilà, je me suis fixé des objectifs, parce que je pense que c'est important. Il faut se fixer des petits objectifs à court terme, les atteindre pour pouvoir passer au palier suivant. Et le fait de garder cette méthodologie et cette façon de travailler, en tout cas, en ce qui me concerne, c'est une méthode qui fonctionne. Et on peut pas aller trop vite dans ce milieu. C'est un travail d'orfèvre, c'est-à-dire que il faut du temps. Il faut du temps pour que l'écriture mûrisse, pour que les textes prennent forme, pour que le spectacle prend forme, etc. Il faut vraiment beaucoup de temps. Alors, il faut bien se mettre en tête que c'est le travail et la patience qui vont faire que les choses avancent. Donc là, le fait de voir que tout ce que j'avais mis en place aboutisse, ben, je suis content, et je vais pas me reposer sur mes acquis et essayer de continuer de travailler énormément pour pouvoir atteindre des objectifs beaucoup plus importants.
Est-ce que t'as conscience quand même que ton parcours est de ceux qui vont vite, parce que ça évolue très vite en fait pour toi vu de l'extérieur.
Ouais.
Et puis en termes de temps, on en connaît qui en 3 ans de carrière sont pas allés aussi vite que toi. T'as conscience de ça?
Là, je commence à en prendre conscience, mais étant donné que je suis focalisé sur ce que je fais et j'ai pas le temps de regarder derrière moi en fait. Tu vois, je suis tout le temps dans le travail, c'est-à-dire que si je suis pas en écriture, je suis sur scène, si je suis pas sur scène, je fais un débrief, si je fais pas un débrief, je suis en répétition, si je suis pas en répétition, je fais de la promo. Donc je suis vraiment, mais vraiment en plein dedans, c'est-à-dire que je mange scène, je bois scène, je dors scène, je suis constamment baigné dans ce que je fais. Et j'ai pas forcément le temps de me rendre compte de l'état d'avancement ou de ce qui est en train de m'arriver, tout simplement.
Et par rapport aux objectifs que tu t'es fixé, puisque tu nous as dit que tu fixais des objectifs que tu remplissais petit à petit, t'as l'impression d'être en avance ou d'être en retard?
Étant donné que je suis jamais satisfait de ce que je fais, je vais dire que je suis en retard. Mais en réalité, il faut se satisfaire un petit peu, faut se rendre compte de la chance et et des opportunités qu'on a. Donc, je vais pas me plaindre. Ça, les choses se passent bien de manière globale, mais je fais partie de ceux qui pensent que on peut toujours faire mieux et on peut toujours s'améliorer. Donc voilà, on va toujours viser plus haut quoi qu'il arrive.
Et toujours viser plus haut, ça c'est le credo de Maé qui vous propose son spectacle Maé s'installe, programmé tous les premiers samedis du mois au Spotlight de Lille notamment, et puis partout en France. On aura évidemment l'occasion d'en reparler dans quelques instants. On va faire une petite pause, et vous n'êtes pas sans savoir qu'on a fêté il y a quelques jours Halloween. C'est une fête que tu suis, ça, qui t'inspire aussi pour écrire Maé?
Ah ben, de base je suis pas trop le move ou autre, mais je me suis promené dans les rues de Lille, Et je te cache pas que j'ai eu beaucoup d'inspiration en voyant certaines personnes. Et il y avait vraiment, vraiment des sketchs, mais à chaque coin de rue, il y avait un sketch. Donc vraiment, c'était cool, vraiment très enrichissant.
Ouais, il y a de quoi sans doute aussi bien alimenter, de quoi remplir des carnets entiers pour les humoristes. En tout cas, nous, Halloween, ça avait inspiré à l'époque de Ed dans ses archives. Il nous avait retrouvé un petit sketch autour d'un parc d'attractions qui ouvrirait spécialement ses portes pour Halloween. Ça s'appelle Creepy Park et on écoute ça tout de suite. On se retrouve dans quelques instants.
Bienvenue au Creepy Park, monsieur.
Bonjour, monsieur. Comment ça va? C'est quoi le principe? Je connais pas du tout. Je suis tombé dessus par pur hasard. J'ai dû me perdre, prendre la mauvaise route au mauvais moment. Je sais pas.
C'est un parc à thème, monsieur. Exclusivement fondé et dirigé par des malades.
Ah, je vois. C'est une espèce de parc caritatif, en quelque sorte, c'est ça? Ouais, c'est bien, c'est bien. Mais dites-moi, on ne risque pas d'être contaminé ou quelque chose comme ça?
Nullement, monsieur. Ce n'est pas ce genre de malade dont je parlais.
Très bien, tant mieux, je suis rassuré. Et qui trouve-t-on alors dans votre parc?
Laissez-moi être votre guide, si vous le voulez bien.
Avec plaisir, oui. Comment dois-je vous appeler?
Mon nom est Grishka, monsieur.
Grishka, c'est bien pour un serviteur bossu. Ça change des noms habituels.
Nous approchons de notre première attraction, qui est notre train fantôme.
Chouette, j'adore les trains fantômes.
Je vous en prie, montez à bord. Faites un tour.
Ah, vous n'aurez pas besoin de me le dire deux fois. Bonjour, monsieur, excusez-moi, je m'assois. Bon, alors on se revoit après, hein, à la sortie.
Amusez-vous bien. Ah, vous revoilà, bien. Alors, qu'en avez-vous pensé?
Très honnêtement, pas grand-chose, bof bof. Il se passe rien, on est juste dans le noir, pas l'ombre d'une créature étrange ou qu'un personnage terrifiant sortant de nulle part sous des éclairages inquiétants. Non, décidément, à part être phobophobique et passer son temps à avoir peur, je vois pas bien l'intérêt.
Ce n'est pas là que réside la particularité de ce train fantôme. En réalité, le principe tient dans ce que dans chaque wagonnet, vous êtes assis à côté d'un serial killer.
Ah, c'est pour ça que ce monsieur là-bas a essayé de me trancher la jugulaire pendant tout le trajet, d'accord. Pardon, monsieur, hein, je ne savais pas. Je suis sincèrement désolé.
Passons à l'attraction suivante. Nous y voilà. Prenons place.
Vous êtes sûr, ici, pas de tueur en série assis à nos côtés?
On ne peut jamais être tout à fait sûr de ces choses-là, monsieur.
Oui, enfin, quand même. Alors, c'est quoi le principe, cette fois?
Oh, c'est une attraction très ludique. Connaissez-vous Small World?
Oui, à Euro, Mickeyland, Resort, Shopping, Mega Market, Paris.
Eh bien, au Creepy Park, nous avons notre équivalent. Le Mad Mad World. Vous voyez tous les petits bonshommes sans trêve. Celui-ci ligote, cet autre découpe, celui-là enterre, celui-ci déterre, cet autre cuisine et mange. Et enfin, quelques heures plus tard, au bout de la chaîne, le petit bonhomme Philippe Catherine vient récupérer les excréments afin de les ranger dans des petites boîtes en plastique et de les exposer chez lui pour sa jouissance personnelle.
Pour tout vous dire, je ne sais pas trop quoi penser de tout ça. C'est pas très classique, disons.
Classique? Oh non, tout ce que vous verrez ici est absolument singulier, monsieur. Mais si nous ne voulons pas être en retard, dirigeons-nous vers le stand de magie.
Ah, volontiers. Voilà quelque chose qui risque sûrement de me plaire.
Voici notre magicien qui arrive. Il s'apprête à faire son tour le plus sensationnel.
Ah, je veux voir ça.
Attendez quelques secondes qu'il fasse allonger cette femme dans la caisse. Et le tour va pouvoir commencer. Vous voyez, il a découpé cette femme en deux.
Oui, oui, je vois bien. Bravo, c'est très réaliste, très bien fait. On y croirait presque. Et avec tout ce faux sang, non, encore bravo. Hein. Mais quoi? Mais... Quoi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Il salue et s'en va, mais il essaie pas avant de la recoller ou je ne sais quoi?
Non. La femme est coupée en deux, le numéro est terminé.
Ah d'accord, c'est nouveau. On peut vomir quelque part?
Le prochain numéro va bientôt commencer.
Je ne suis pas sûr de vouloir le voir.
C'est un numéro de lanceur de couteau.
Oui, bah je préfère regarder ça dans le plus grand cabaret du monde si ça vous dérange pas.
Taisez-vous, il va commencer. Vous voyez, 5 couteaux, 5 organes vitaux touchés. Malheureusement, elle n'a pas trop souffert. Vous comprenez? Ce sont des organes vitaux. La personne décède donc plus ou moins au premier lancé. C'est un numéro qu'il nous faut finir de mettre au point. Il demande à être peaufiné. Une mort lente serait bien plus intéressante pour les spectateurs.
Oui, ou pas, vous n'êtes pas obligé de tuer des gens non plus.
Comment? Mais je ne comprends pas. Qu'insinuez-vous, monsieur? Les amis, je crois que nous avons un problème ici.
Un client insatisfait. Nos attractions ne semblent pas l'amuser.
Ah non, si, si, beaucoup. C'est mal me connaître. Dès que j'ai besoin d'une bonne tranche de rigolade, je fonce tout de suite chez un médecin légiste.
C'est pourtant ce qui se passe avant qui est le plus intéressant. Et vous apprendrez, monsieur, qu'ici, nous n'aimons pas vraiment les médecins légistes. Ils nous ont bien souvent causé, à moi et mes camarades, de sérieux ennuis.
Non, je me suis mal exprimé. En fait, je voulais dire autre chose, un truc différent, qui avait justement rien à voir, qui était le contraire même. Bon, maintenant, excusez-moi, mais je vais devoir reprendre la route. Je n'ai pas tout à fait fini de me perdre. Non, 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 n'approchez pas. Laissez-moi.
passées de 35 minutes sur Radio Plus. Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Humour Plus. Mon invité aujourd'hui, Maé, pour son spectacle Maé s'installe. Alors Maé, on en parlait hors antenne. Ça tourne bien pour toi. T'as voyagé un petit peu partout. Alors on va avoir aussi l'occasion de parler un petit peu de toutes tes dates, parce que c'est un spectacle qui est vraiment en train de se jouer partout en France. C'est-à-dire que les gens qui utilisent cette formule, des fois, en fait, quand ils disent partout en France, et ils ont 20 dates à Paris, une date à Lyon, une date à Marseille, et voilà, c'est partout en France. Toi, non, c'est vraiment partout où tu vas, on va avoir l'occasion de parler de ça. Mais moi, j'aimerais qu'on revienne sur un festival auquel tu as participé. Ça a été ton premier contact ici avec nous. D'ailleurs, c'est le festival Humour en Web. Ça, c'était l'année dernière. T'as joué dans un café, et là, moi, je l'ai vu, ce spectacle, puisque, enfin, cet extrait que tu nous as proposé. Et c'est ce qui fait aussi toute ta force, c'est ta capacité à rebondir en permanence. T'as eu des conditions qui ont pas forcément été faciles, parce que jouer dans un café qui n'est pas prévu pour ça à la base, c'est pas forcément facile techniquement. Il y avait pas de scène, il y avait pas de voilà, fallait s'imposer. Et tu l'as fait, et tu l'as brillamment fait, comme les deux autres qui t'ont accompagné sur scène. Mais voilà, c'est aussi un apprentissage du métier qui rentre, et c'est ça aussi toute ta force, c'est ta capacité à improviser avec le public. Et ça, j'aimerais que tu m'en parles, parce que ça m'a l'air quand même d'être quelque chose d'assez important pour toi.
Ben en fait, c'est très important pour moi, et j'ai constaté que le public aimait l'improvisation en fait. Le public aime faire partie du spectacle. Alors attention, il faut pas que tout le spectacle soit reposé sur ça. Il faut arriver avec un texte solide qui puisse nous permettre de sortir du texte pour pouvoir improviser avec le public, et pour pouvoir revenir dans le texte quand on a décidé de revenir dans le texte, tout simplement. Et ouais, mais l'improvisation, je pense que c'est super cool, dans le sens où les gens voient bien que c'est spontané, et du fait que ça soit spontané, ben forcément ça fait rire, et ça donne du plus au spectacle.
Il y a des jours où tu perds le fil à force d'improviser?
Ça m'est déjà arrivé. Ça m'est déjà arrivé d'improviser et de vraiment sortir du texte pendant 15-20 minutes et revenir dans mon texte et sans trop savoir où est-ce que je m'étais arrêté exactement.
Et j'en suis où, bordel? C'est
la phrase.
Alors, le festival Humour en Web, c'est un festival qui est emblématique ici dans cette région, parce que voilà, il y a des têtes d'affiche, il y a des humoristes de demain qui s'y produisent aussi. C'est pas le seul festival que tu as fait depuis. T'as voyagé un petit peu partout. On a dit Villeurbanne du côté de Lyon, et puis j'imagine que ça a pas été le seul rendez-vous pour toi cette année.
Non, j'ai fait également les Lions du Rire. Je sais pas si vous en avez entendu parler.
Non, dis-nous.
Et en fait, il y avait une sélection d'humoristes dans toute la France. Et on était exactement 66 humoristes.
C'est beaucoup.
Oui. Et ils en ont gardé 8 sur les 66. Et on va jouer à la Bourse du Travail de Lyon le 18 avril 2020, devant 2000 personnes. Et je suis content de faire partie de l'aventure, parce que c'est super cool, quoi. Jouer devant autant de personnes pour des humoristes sans vouloir être sans voir le côté péjoratif. On n'est pas des humoristes connus du grand public. Mmh. Et le fait de pouvoir se produire dans des salles aussi prestigieuses, c'est magnifique.
Et des humoristes en devenir, hein, mais ici tu sais qu'on est très écoutés et partout en France, et on espère en tout cas que ceux qui sont à l'écoute cet après-midi auront envie de parler de toi à leur programmateur, en tout cas programmateur qui nous écoutait, parce que vous êtes quelques-uns aussi à nous écouter. On vous invite à vous intéresser à Maé, un garçon en qui on croit ici dans cette émission. Autre festival marquant, et là ça peut être aussi un passage, alors je vais pas dire obligé, quoique tu seras peut-être pas d'accord avec moi, c'est le Festival d'Avignon.
Oui.
Alors, est-ce que c'est un passage obligé quand on est humoriste? Parce que il y a deux écoles ici quand on pose la question aux humoristes qui viennent. Il y a ceux qui nous disent oui, c'est quasiment obligatoire si tu veux remplir ton carnet d'adresses et si tu veux remplir ton carnet de prestations à l'année. Et t'as ceux qui nous disent ouais, je l'ai fait, c'est une usine à gaz, c'est compliqué, on joue trop de spectacles devant trop peu de gens et au final c'est beaucoup d'argent dépensé pour pas grand-chose. Surtout quand on n'a pas de production qui peut assurer effectivement les coûts derrière, ça c'est un enjeu aussi dont il faut avoir conscience. Alors, quel a été ton Avignon à toi?
Alors, mon Avignon, c'est donc tout d'abord, c'était mon premier Avignon en tant qu'humoriste qui joue son spectacle. Et honnêtement, j'en garde un très bon souvenir. ça s'est très bien passé. J'avais une équipe de dingue avec moi. Donc, j'avais deux personnes qui s'occupaient de l'affichage. Donc, ça veut dire que je ne m'occupais pas d'afficher mes propres affiches. Et ils ont fait un taf formidable. Vraiment, ils ont fait du très bon travail. J'étais vraiment dans toute la ville. Mais vraiment, c'est-à-dire que on voyait mon affiche partout. Et ça m'a beaucoup aidé à remplir ma salle. Alors, c'est vrai que c'est une usine à gaz. C'est vrai que c'est difficile. C'est vrai que les conditions, c'est pas les meilleures conditions pour travailler. Mais pour les personnes déterminées, les gens qui ont vraiment la dalle, c'est vraiment l'occasion de s'installer, c'est le cas de le dire, dans le paysage humoristique français. Parce que on a toutes les salles de France, tous les programmateurs passent par le Festival d'Avignon. Même s'ils viennent juste une semaine, 3-4 jours, mais ils passent tous au Festival d'Avignon. Alors si c'est pas tous, au moins les trois quarts. Et c'est une façon de se faire voir, de se montrer et de montrer qu'on existe, et après par la suite, alors ça veut pas forcément dire que l'année qui va suivre, vous allez jouer votre spectacle partout, mais au moins, on sait que vous êtes là, on sait que vous travaillez, on sait que vous êtes en train d'évoluer, en train de vous développer tranquillement, et les gens ont conscience que vous êtes en train d'arriver. Donc c'est vrai que c'est difficile, c'est vrai que les conditions, c'est pas les meilleures, mais en tout cas c'est très formateur.
T'en vois déjà les premières retombées de cet Avignon ou pas encore?
Oui, là, depuis la rentrée, j'ai joué mon spectacle à Alès, j'étais joué mon spectacle à Saint-Mittre-les-Remparts, j'étais joué mon spectacle à Marseille, et je vais encore pas mal me déplacer là dans les mois à venir. Et tout ça, c'est des retombées du festival. Je vais participer également à beaucoup de festivals grâce au Festival d'Avignon. Donc, j'en vois que des côtés positifs pour ma part. Parce que j'étais bien entouré, j'étais bien encadré, j'avais des gens avec moi qui m'ont aidé, à distribuer les flyers, à l'affichage, à l'accueil du public, etc. Donc franchement, je suis d'accord avec toi dans le sens où il y a les deux versions où c'est vrai que c'est une usine à gaz, mais c'est aussi vrai que ça peut être une très belle expérience humaine parce qu'on rencontre énormément de personnes et c'est magnifique de rencontrer son public dans la rue. Ce qui est drôle, c'est qu'on croise des gens dans la rue. Moi, par exemple, je jouais à 13h. À 11h, je croisais des gens dans la rue. Alors, quand j'avais un peu de temps, j'allais flyer dans la rue avec les gens qui flyaient pour moi. Et le fait de les retrouver dans ma salle à 13h, tu te dis, mais c'est grave cool, tu vois. On a créé un lien dans
la
rue.
Tu dis, un lien qui s'est créé, ça a marché, ouais.
Exactement. Et ça, c'est cool. Et franchement, je pense qu'en termes d'expérience, pour un humoriste, ben, c'est un truc à vivre, tout simplement.
Alors, toi qui aimes avancer par étapes, t'as démarré ta vie artistique à Valenciennes, c'est de là d'où tu es originaire, c'est là où t'as pris tes premiers cours de théâtre. Très vite, t'es monté à Lille, oui c'est vrai, géographiquement on monte,
ouais.
Et déjà c'est une étape importante, j'imagine, dans la carrière d'un humoriste, d'être programmé régulièrement à Lille, parce que il y a quand même plus de salles qu'à Valenciennes.
Bien
donc
sûr.
Une exigence du public. Tu me disais encore tout à l'heure qu'il y avait une nouvelle salle qui ouvrait, un nouveau comedy club qui ouvrait. Et tu vas franchir bientôt une étape aussi, ce sera pour 2020, c'est la montée à Paris, là.
La descente à Paris.
Ouais, la descente, du coup, géographiquement. Mais c'est vrai que l'expression montée à Paris est restée. Mais ouais, comment ça s'est fait encore, ça?
Eh ben, c'était dans le, en fait, quand tu développes un spectacle, il faut mettre en place une stratégie de développement. Et l'idée, c'était tout d'abord d'être installé dans ma région, qui est Lille, le nord de la France. Et une fois que le spectacle a bien pris dans le nord de la France, il fallait aller sur Paris parce que c'est sur Paris que tout se passe. Et c'est important d'être sur la place parisienne parce que, comment dire, on a le Festival d'Avignon qui est une belle vitrine, mais on a également Paris. Parce que les spectacles qui vivent à Paris, c'est des spectacles qui sont potentiellement exportables dans toute la France. C'est très difficile de jouer son spectacle à Paris dans le sens où, par soir, il y a plus de 200 spectacles, si je dis pas de bêtises. Et c'est, la concurrence est
rude. Je crois même que tu peux multiplier par deux, si je dis pas de bêtises. Moi-même, ça doit être plus 400 que 200.
Tu vois, donc, voilà. Donc, plus 400 que 200. Et le fait de réussir à exister parmi tous ces spectacles, c'est un exercice de taille et c'est un grand challenge. Et on est prêt à le relever, tout simplement.
Tu t'es fixé quel objectif à venir?
Alors mon objectif à venir, ben c'est de comment dire le spectacle, le faire évoluer dans un premier temps. Arriver à Paris à partir du mois de janvier, donc je serai à la Comédie des Trois Bornes. Mon objectif, alors je vais commencer par une salle qui s'appelle la Comédie des Trois Bornes. C'est une salle de 50 places. Mon objectif, c'est de la remplir une fois par semaine, le jeudi. Ça sera tous les jeudis à 20h à la Comédie des Trois Bornes et on va mettre tout le travail nécessaire et toute la détermination pour avoir une belle salle et satisfaire le public, vraiment les distraire et qui passent un très bon moment quand ils viennent au spectacle.
Ouais, donc ça effectivement c'est l'objectif à venir et puis bien sûr après tout se fait aussi par étape j'imagine. Est-ce que il y a sans trop en dire parce que on n'a pas non plus envie que ça puisse porter malheur, on le dira comme ça. Est-ce que il y a des propositions que tu aurais eues professionnellement, artistiquement, où tu t'es dit c'est peut-être trop tôt?
Déjà, quand on m'avait proposé de signer avec Vérone Productions, des gens me disaient non, c'est un peu trop tôt, attendre de mûrir un peu, etc. Alors que moi, je le voyais pas comme ça, je le voyais comme une opportunité de d'évoluer, dans le sens où si j'ai une équipe qui m'encadre et qui m'aide à me développer, ça sera que positif. Je pense pas que je voyais pas de côté négatif à ça en fait. Donc les opportunités qui se sont présentées où je me disais que c'était trop tôt, non, pas forcément, non.
Et tu te serais vu faire tout le travail que t'as accompli tout seul, parce que tu nous expliques depuis tout à l'heure effectivement l'importance d'avoir une production qui t'accompagne, un metteur en scène qui t'accompagne. C'est vrai que c'est un confort en tant qu'artiste, c'est même une facilité de pas avoir à démarcher les radios pour faire de la promotion, des scènes pour aller jouer ton spectacle. Mais il y en a aussi qui ont réussi dans ce métier tout seul. Est-ce que toi tu te serais vu faire tout ce que tu fais tout seul?
Quand j'ai signé avec Vérone Productions, la machine commençait à se lancer en fait. Donc j'avais déjà fait ce travail. La base était déjà construite. C'est-à-dire que j'avais un spectacle, j'avais mon réseau qui commençait à se faire un peu partout dans la France avec d'autres humoristes qui gèrent des plateaux dans toute la France, qui gèrent des théâtres également.
Les premières parties qu'on peut faire aussi, j'imagine.
Exactement. Donc mon réseau commençait à s'établir et commençait à se consolider de plus en plus. Et Vérone est arrivé pour consolider ce que j'avais déjà mis en place. Et c'est venu vraiment solidifier tout ce qui était déjà existant et même voir développer ce qui existait déjà. Et là, on continue de travailler chaque jour pour continuer d'évoluer.
Donc effectivement, beaucoup de choses au programme. On arrive tout doucement à la fin de cette émission et je voudrais qu'on la termine en musique, mais là on va se mettre un petit peu dans une ambiance, tu vas comprendre l'ambiance que ça peut être, je t'en dis plus dans un instant, et ceux qui ont l'habitude de nous écouter savent de quoi on va parler. Un petit clin d'œil bien sûr à cette rubrique des rôles enduits de parade, parce que c'est une rubrique qu'on a l'habitude de retrouver dans cette émission, animée notamment par Ed lorsqu'il est présent avec nous, qui va piocher comme ça un petit peu les pépites du top 50, celles qui ont eu une carrière à la radio alors qu'on s'y attendait pas du tout, ou à l'inverse, celles qu'on aurait préféré oublier. Et parmi les chansons que l'on a évoquées dans la dernière émission, il y avait une bande originale de film, un film avec José Garcia, et c'est là aussi qu'on voit la force de ce média qu'est la radio. En fait, on a reçu un mail d'un auditeur qui était à l'écoute de cette émission, parce que Il faut savoir que on avait passé un extrait de cette bande originale de film Quelqu'un de bien, on n'avait jamais retrouvé la chanson intégrale. Et on est tombé sur le seul, je crois que c'est le seul en France qui possède encore le CD de titre. C'était un fan de tout ce qui se faisait sur Canal+ à l'époque, donc José Garcia à l'époque de la grande époque de Lune par ailleurs. Il a acheté le CD, il a à peine ouvert juste pour le sortir. Il avait gardé vraiment comme objet de collection et il a nous a envoyé un message disant écoutez, c'est fou, j'ai entendu votre émission, vous dites que vous n'avez pas le CD, moi je l'ai, est-ce que je peux vous l'envoyer comme ça vous pourrez diffuser la chanson à la radio.
Magnifique.
Alors ça c'est super, ça c'est une force extraordinaire. Comme quoi tu vois, s'il y a des gens qui écoutent peut-être cette émission, peut-être qu'ils auront envie d'en parler près de chez toi et de venir pourquoi pas te voir à la Comédie des Trois Bandes. Alors la chanson dont on a diffusé un extrait, on la garde pour un petit peu plus tard puisqu'on a les deux titres. Nous on va vous proposer la face B et c'est comme ça qu'on va terminer cette première heure d'émission. La face B, ça s'appelle Algeco et c'est avec José Garcia. Je vous propose d'écouter cette chanson sans plus tarder. Et c'est crédité au nom de José Garcia, cet instrumental extrait de la bande originale du film « Quelqu'un de bien ». On vous proposera la version chantée par José Garcia dans une prochaine émission. On va remercier Tom qui nous a eu la gentillesse de nous envoyer ce morceau. On arrive déjà à la fin de la première heure en compagnie de Maël. Le temps passe très très vite. On va se retrouver bien sûr à partir de 17h pour la suite en compagnie de Maël. Mais juste avant de se quitter, Maël, il nous reste un petit peu moins de 2 minutes. Est-ce que tu peux nous rappeler tous les rendez-vous qui t'attendent pour cet après-midi, pour ceux qui sont à l'écoute de l'émission et qui ont envie de venir te voir ce soir?
Alors, cet après-midi, je serai à 16h sur la scène ouverte du Spotlight. À 20h, je serai en première partie d'Ahmed Silla au Colisée à Roubaix. À 21h30, je serai au Spotlight pour mon spectacle Maé s'installe. Et à 23h30, je serai sur un plateau d'humoristes à l'Industrie Comédie à Lille.
Voilà, et ça, l'Industrie Comédie, c'est un tout nouveau lieu qui vient d'ouvrir. Est-ce que tu sais l'adresse? Tu peux nous communiquer l'adresse?
Alors, j'ai pas l'adresse exacte, mais je sais juste que c'est à Lille, Port d'Arras, et c'est un très bel établissement qui vient d'ouvrir ses portes sur Lille, et c'est cool.
Et tout nouveau, en tout cas, renseignez-vous, notamment sur les réseaux sociaux. Et puis, si vous nous écoutez, hein, puisqu'il est quasiment 16h55, c'est peut-être un petit peu tard pour voir Maé sur scène au Spotlight. Alors, foncez prendre votre place pour la séance de 21h30. C'est son spectacle Maé s'installe. Nous, on se retrouve dans quelques minutes à partir de 17h en compagnie de Maé. À tout de suite.